voilà notre rendez-vous hebdomadaire avec Portrait de femme de notre matrimoine par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Aujourd'hui, nous allons remonter très loin dans le temps. Jacqueline.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, nous allons remonter très très loin puisque nous allons parler de l'Aurignacienne. Alors, qui est l'Aurignacienne? C'est une femme de la préhistoire, moins 36 500 ans avant notre ère. Donc, l'Aurignacienne, c'est le faciès humain de l'Homo sapiens du Paléolithique supérieur, moins 40 000 à moins 10 000 ans. Un faciès commun à l'ensemble de l'Europe où apparaissent les premières formes de l'art. La grotte dite grotte Chauvet, du nom d'un de ses trois découvreurs en 1994, dont une femme, en Ardèche, à Vallon-Pont-d'Arc, se situe à cette époque. Elle est beaucoup plus ancienne que la grotte de Lascaux, qui n'est qu'à moins 18 900 ans. Tout est là, sous nos yeux. Les artistes, les Aurignaciens et les Aurignaciennes étaient, comme nous, des Homo sapiens dotés des mêmes facultés. Certaines des peintures de cette grotte sont, sans aucun doute, réalisées par des femmes. Cette découverte et d'autres récentes remet en cause la vision des premiers préhistoriens du XIXe siècle qui ont écrit la préhistoire exclusivement ou quasi exclusivement au masculin. Ce qu'ils ont imaginé n'était que le reflet de l'organisation sociale de leur temps. Ils ont calqué sur les femmes préhistoriques leurs préjugés sexistes où, au XIXe siècle, la femme n'était pas considérée, elle était réduite à un rôle domestique et au statut de mère, et où seule, dans leur esprit, l'homme, c'est toujours le héros, la femme ne compte pas, sa fonction réelle très importante, son rang sont sous-estimés, pour ne pas dire occultés. On a longtemps pensé et enseigné que la femme n'a pas participé à l'évolution de la société. Mais si on ne cherche pas, on ne voit pas. Or, depuis 1980, les préhistoriens et surtout les préhistoriennes, grâce à l'ADN, ont prouvé que les femmes étaient fortes comme les hommes. Non, elles ne se consacraient pas tout leur temps à balayer la grotte et à garder les enfants en attendant le retour de l'homme de la chasse. Elles aussi poursuivaient, dans certaines communautés, les grands mammifères, elles fabriquaient des outils et des parures, elles construisaient des habitats, exploraient les formes d'expression artistique. Aucune donnée archéologique ne prouve que, dans les sociétés les plus anciennes, certaines activités leur étaient interdites. Il est temps de déconstruire les processus qui ont délibérément invisibilisé les femmes à travers les siècles en confrontant les idées reçues que véhiculent encore de nos jours les livres, les films, en les confrontant donc à la connaissance moderne pour découvrir le vrai rôle, la place, le statut des femmes de la préhistoire, pour casser l'image de la femme fragile et faible, montrer son vrai visage, son importance dans la vie de la société. Alors on a des éléments scientifiques mesurables et déterminants pour dresser un portrait à partir d'indices archéologiques et de découvertes nombreuses ces dernières années par les chercheurs et les chercheuses. Par exemple, l'examen des os du bassin des squelettes permet de déterminer si on a affaire à une femme ou à un homme. Ainsi, le fossile nommé l'homme de Menton, grand squelette de 1,72 m, découvert en 1872 dans une grotte de Vintimille par Émile Rivière, était dans une sépulture très richement garnie, ornée de coquillages, de canines de cerf, avec un cheval gravé et des armes de chasse. En 1895, on s'aperçoit que l'os du bassin est celui d'une femme respectée, importante. Donc, l'homme de Menton est une femme. Ce qui était inconcevable pour les premiers préhistoriens. Quel était son visage? Evelyne Heyer, paléo-diététicienne, nous dit qu'elle a une peau foncée à cause de l'alimentation graisseuse carnée, une peau qui pâlit à mesure que les humains deviennent agriculteurs, sédentarisés ou semi-sédentarisés, modifiant ainsi leur alimentation. Elle a les yeux bleus par sélection sexuelle, ça je ne peux pas vous l'expliquer, mais aboutissant à une mutation, et des cheveux crépus. Elle faisait toutes sortes d'activités. À la chasse, elle rabattait le troupeau, découpait les carcasses, traitait les peaux. Elle chassait le petit gibier, qui est un apport alimentaire plus fiable et représente en fait 70% de la nourriture. Elles étaient artisanes, elles confectionnaient des objets utilitaires en matière végétale et elles étaient aussi guérisseuses grâce à leur connaissance des propriétés des plantes. C'est ce que décrit l'écrivaine Jean Howell dans sa saga « Les enfants de la terre » en 6 tomes. Le rôle majeur des femmes de la préhistoire, leur ingéniosité, leur talent pour améliorer la vie de la tribu, a été minoré au profit de la chasse du gros gibier, plus spectaculaire, valorisant essentiellement les hommes. Si l'on recherche les auteurs ou les autrices des fresques ornant les parois des grottes, telles la grotte de Pechmerle dans le Lot, joyau de l'art préhistorique, on peut déterminer si les empreintes de mains signant les œuvres sont aussi celles des femmes. Des indices nous disent que oui, il en va de même avec les empreintes de pieds identifiées comme étant des empreintes de femmes adultes, d'hommes et d'enfants. Alors, quelle mère de famille était-elle ? L'accouchement se faisait dans une position verticale où l'on souffre moins que dans la position allongée. Loin de l'image de la mère accaparée par sa progéniture pendue à ses seins, elle n'avait pas plus de 4, 5 ou 6 enfants, car elle pratiquait l'espacement des naissances de 3 ou 4 ans entre 2 enfants. Pour cela, elle se servait de la stérilité pendant la durée de l'allaitement et sans doute aussi de plantes abortives, puisqu'elle connaissait bien les plantes. Ainsi, la maternité n'empêchait pas les femmes de participer aux activités du groupe. En ce qui concerne les relations hommes-femmes, ces peuples étaient monogames, solution qui convient le mieux à une société où on ne peut pas faire beaucoup d'enfants. Il y avait entre les groupes des alliances, des rites d'échange, mais pas de mariage incestueux, car on percevait les risques de consanguinité. Les femmes et les hommes trouvaient leurs conjoints à l'extérieur de leur tribu. La femme homo sapiens était donc une femme libre de choisir son partenaire, ce qui n'a pas été le cas de toutes les femmes dans les siècles passés. Non, notre humanité ne s'est pas construite sur des rapports bestiaux violents, ce qui bat en brèche les clichés, entre guillemets, des âges farouches. En conclusion, je dirais que la femme homo sapiens est une athlète. Grande, élancée, puissante, le regard bleu et les cheveux crépus, maîtrisant de nombreux savoirs, respectée, honorée, non soumise, elle nous apparaît enfin en pleine lumière. Pour finir, je voudrais faire une citation de Jean-Philippe Rigaud, conservateur général du patrimoine, directeur du Centre national de préhistoire, en 1991, à propos du livre de Jean Howell, « Les enfants de la terre », le tome 1, « Le clan de l'ours des cavernes ». Je cite « Délicate entreprise que d'aborder le sujet de la condition féminine préhistorique, tant notre ignorance est grande sur ce point. Mais ce qui est important, en fait, c'est de présenter, à travers ces récits, un point de vue nouveau, bien différent de celui qui a prévalu jusqu'ici dans une discipline encore très masculine. » Ceci est une forme d'aveu, en quelque sorte. Alors, la source principale, c'est « L'homme préhistorique est aussi une femme » de Marilyn Patou-Matisse, 2000, donc préhistorienne, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Et puis, un autre livre de 2021, très récent, « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes » de Titiou Lecoq, dans édition L'Iconoclaste. Et puis aussi un film documentaire qui est passé sur la chaîne numéro 5 il y a très peu de temps et qui s'appelle « Lady Sapiens », film documentaire de Thomas Sirotto.
Jacqueline, merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre portrait de femme. Mmh. Et je rappelle que cette émission est rediffusée donc chaque mardi à 16h et chaque jeudi à 17h. Bonne journée, au revoir.
Au revoir.